Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 7 juin.
La Corée du Sud élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Des avions militaires chinois et russes ont pénétré mardi dans la Cadiz. Fukushima, le bras de fer s'aggrave au Parlement. Et enfin, travailleuse domestique étrangère, introduction du système à titre d'essai au deuxième semestre.
La Corée du Sud a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de son troisième mandat depuis son adhésion à l'organisation internationale. Le premier a été de 1996 à 1997, quant au suivant de 2013 à 2014. Lors du vote de l'Assemblée générale mardi à New York, le pays du matin clair a obtenu 180 voix, soit plus de deux tiers des 192 États membres présents, le seuil requis donc. Il s'est présenté sans opposition pour la région Asie-Pacifique. Son nouveau mandat de 2 ans débutera le 1er janvier 2024. Il l'entamera au même moment que 4 autres pays, dont la Sierra Leone et la Slovénie. Suite au scrutin, Hwang Jung-guk, ambassadeur sud-coréen à l'ONU, a déclaré aux journalistes que Séoul continuerait à communiquer non seulement avec Washington et Tokyo, mais aussi avec Pékin et Moscou, même si l'entrée de la Corée du Sud au Conseil de sécurité n'aboutirait pas tout de suite à un grand changement. Le haut diplomate sud-coréen expliquait que son pays, les États-Unis et le Japon, travailleraient ensemble pour la première fois au sein du Conseil de sécurité, avant d'ajouter qu'il serait significatif que les trois nations puissent y aborder les questions nord-coréennes sur fond d'aggravation des affrontements politiques en Asie du Nord-Est. À Séoul, les premières réactions n'ont bien évidemment pas tardé. Le président de la République, Yoon Suk-yeol, a déclaré ce matin que l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU constitue une victoire de la diplomatie internationale. Lee Do-woon, le porte-parole du bureau présidentiel de Yongsan, a souligné pour sa part qu'il s'agissait d'une occasion importante pour la Corée du Sud de devenir une nation qui joue un rôle central sur la scène mondiale. Le Conseil est composé de 15 membres, dont 5 permanents et 10 non permanents. Ces derniers ne disposent pas de droit de veto, mais peuvent participer aux discussions et aux votes.
Les États-Unis ont félicité la Corée du Sud pour son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le département d'État américain a affiché son souhait de la voir jouer son rôle de contrôler la Corée du Nord, avant d'ajouter que certains membres du Conseil se rangeaient du côté du royaume ermite, en parlant d'une manière déguisée de la Chine et de la Russie qui n'ont pas réagi aux violations des résolutions onusiennes de leurs alliés.
Des avions de guerre chinois et russes se sont introduits hier dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne au Cadiz. L'état-major interarmé sud-coréen JCS annonçait qu'entre 11h52 et 13h49, 4 aéronefs militaires de la Chine et 4 autres de la Russie y avaient successivement pénétré au-dessus de la mer du Sud et de l'Est avant de quitter la zone. Le JCS a précisé que ces appareils n'avaient pourtant pas violé l'espace aérien de la Corée du Sud, avant d'ajouter que même avant cette intrusion, l'armée sud-coréenne avait effectué une action tactique en envoyant des avions de combat afin de faire face à toute éventualité. La zone d'identification des défenses aériennes est un espace aérien établi au-delà du territoire d'un pays afin de permettre une identification précoce des avions militaires qui s'en approchent. La coutume internationale veut que, dans le cas d'une pénétration, une notification préalable soit adressée au pays concerné. Pour rappel, des avions militaires chinois et russes avaient déjà fait des incursions dans le Cadiz en mai et en novembre 2022, et en janvier de cette année encore, 2 appareils de l'Empire du Milieu y ont pénétré avant d'en ressortir.
Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. La femme et le fils d'un employé du consulat général nord-coréen à Vladivostok ont disparu. C'est ce qu'a rapporté mardi Radio Free Asia et Asahi Shimbun. Selon ces médias, les proches du nord-coréen sexagénaire ont pris dimanche un taxi devant le consulat. Ils auraient échangé ensuite de taxi avec des cartons contenant leurs affaires pour se diriger vers Khabarovsk, une ville située au nord de Vladivostok. La police russe présume qu'ils auraient pu essayer de quitter la Russie. Le quotidien japonais a estimé quant à lui qu'il pourrait pourraient se diriger vers la Chine, avant d'ajouter que leur destination finale pourrait être la Corée du Sud.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Alors que le déversement dans l'océan Pacifique des eaux contaminées provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima semble imminent, à Séoul, les débats sont houleux à l'Assemblée nationale. Le Parti du pouvoir du peuple a déclaré mobiliser tous les moyens pour protéger la sécurité de la population et la mer sud-coréenne. Il a ainsi appelé Yoo Guk-hee, le président de la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée, NSSC, à élaborer des dispositifs scientifiques et objectifs en vertu des droits internationaux. La formation au pouvoir a également reproché au Minju de propager des rumeurs infondées qui alimentent la peur du public, tout comme lors de la crise de la vache folle américaine dans les années 2000. Le chef du groupe parlementaire du PPP, Yoon Jae-ok, a déclaré qu'une telle manipulation de l'opinion publique finira par porter préjudice aux citoyens, notamment les pêcheurs. Dans le camp d'en face, le Minju a répliqué que des cas soulevant des doutes sur la sécurité des eaux usés s'enchaîner. Selon son numéro de Park Kwang-won, des médias nippons ont récemment rapporté qu'un poisson pêché près de la centrale présentait une quantité de cécium 180 fois supérieure à la limite légale. Le parti de centre-gauche a exhorté le mouvement présidentiel à collaborer pour adopter la résolution parlementaire visant à appeler à la réaction du gouvernement ainsi que celle demandant au Tribunal international du droit de la mer de prendre des mesures provisoires à ce sujet. Il compte aussi mener une audition de confirmation auprès de la délégation sud-coréenne qui s'est récemment rendue à la centrale de Fukushima.
Le gouvernement sud-coréen envisage de faire venir des femmes de ménage étrangères dans le cadre de la lutte contre la faible natalité du pays. Selon la loi actuelle, seuls les Chinois d'origine coréenne et les Gareski, les descendants des Coréens déportés en Asie centrale par Staline, peuvent exercer ce métier. Parmi les autres étrangers, ceux qui ont le statut de résident permanent ou les femmes mariées à des Sud-Coréens sont qualifiés. L'enjeu principal, le niveau de leur rémunération. Une Philippine d'une trentaine d'années travaille chez une famille en Corée du Sud depuis 2 ans. En plus des tâches ménagères et de la garde des 2 enfants, elle leur enseigne aussi l'anglais. Pour cela, elle touche 2 millions de won par mois. Cette somme équivalente à 1400 euros est un peu moins élevée que le salaire minimum sud-coréen. Mais la travailleuse a témoigné qu'il s'agissait d'une somme plutôt conséquente pour une étrangère qui vient de s'installer. Dans ce contexte, un député du parti de la transition de la Corée, Cho Jong-hoon, a déposé en mars dernier un projet de loi visant à élargir le champ des ouvriers étrangers dans ce domaine et ne pas leur appliquer le SMIC. Il a affirmé qu'ainsi, leur rémunération pourrait s'établir autour d'1 million de won par mois ou 720 euros comme à Singapour. L'exécutif prévoit de faire embaucher les travailleuses par les agences certifiées par le ministère de l'Emploi et du Travail pour que les foyers puissent établir un contrat de service avec ces dernières. Il compte leur délivrer un visa d'emploi non professionnel, mais dans ce cas, elles feront l'objet de la loi sur le salaire minimum. Le gouvernement a annoncé que ce système serait mis en œuvre à titre expérimental au 2e semestre de l'année après avoir écouté l'opinion publique.
Culture à présent. 50-50 continue de figurer avec Cupid dans le Billboard Hot 100. Le groupe féminin sud-coréen occupe la 23e place du classement dévoilé hier. Il est vrai que c'est 3 rangs inférieurs par rapport à il y a 7 jours, mais notons que le Girls Band y est présent pour la 11e semaine consécutive. Jusqu'à présent, le meilleur record établi par un artiste ou un groupe de K-pop était Blackpink. Son titre Ice Cream était resté durant 8 semaines dans ce classement, c'était en 2020.
Et pour terminer, la Gay Pride, le point culminant du Seoul Queer Culture Festival, se déroulera dans le quartier d'Uljiro de Ga cette année. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le comité d'organisation lors d'une conférence de presse. À l'origine, il comptait l'organiser sur la place de Séoul, mais la municipalité a refusé l'autorisation du fait que la fondation culturelle CTS, un organisme protestant, a également demandé l'utilisation de ce lieu au même moment. Ce festival annuel sud-coréen visant à défendre la cause LGBTQIA plus se tiendra pendant 2 semaines entre le 22 juin et le 9 juillet. Le comité prévoit un total de 150 000 visiteurs. En ce qui concerne la parade prévue le 1er juillet, plus de 50 000 personnes défileront. Le comité d'organisation est d'ailleurs en discussion avec la police pour répondre aux éventuels conflits avec les opposants de leur manifestation. la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Hyang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne journée sur nos ondes.